dans la maison du Seigneur bien plus que toute chose. Amen. Vous avez vos Bibles avec vous ce soir? Montrez-moi votre Bible et dites, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce soir, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous rappelez-vous, c'est que nous allons ouvrir notre Bible, Matthieu chapitre 7, et on va la lire en chantant. Amen. On va se lever ensemble et on va chanter ensemble de nouveau. C'est très simple pour ceux qui ne le connaissent pas, il suffit de lire la Bible. Amen. Jésus dit et raconte une histoire en disant, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Et dit, voici comment est semblable l'homme qui fait ce que je dis et l'homme qui ne fait pas ce que je dis. Amen. Rappelez-vous, le fou, on commence avec le fou. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba, et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison, et la tempête arriva. Oh là là! Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Alléluia! Wouh! Alléluia! Je vois que vous connaissez cette parabole de Jésus par cœur. Amen, amen, amen. Certains m'ont dit qu'ils se sont réveillés à 4 heures du matin avec cette chanson. C'est mieux ça que de se réveiller à 4 heures du matin avec « Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me dire pourquoi, qui saura ?» C'est mieux de se réveiller avec quelque chose de bien de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous avons parlé ces derniers jours sur l'obéissance et pour bien montrer que Jésus nous montre que celui qui bâtit sa maison sur le roc est celui qui non seulement reçoit la fondation de la parole de Dieu, mais savez-vous, ça ne sert à rien de recevoir la fondation de la parole de Dieu et ne pas l'obéir. Amen. Non seulement je reçois la parole, et nous sommes dans une église ici qui enseigne la parole dans sa pureté, amen, et en plus, on nous encourage à obéir la parole de Dieu, amen. Et Jésus dit, si j'obéis la parole de Dieu, je suis comme cet homme qui bâtit sa maison sur du roc. Même vient la tempête, vient le vent et la pluie, et toutes ces choses viennent, mais la maison reste solide et ne tombe pas. Par contre, si je ne mets pas cette parole en pratique, si je n'obéis pas à la parole de Dieu, alors c'est comme si j'avais construit toute ma vie sur du sable. Et quand vient la tempête, c'est là qu'on voit. C'est souvent quand vient la tempête que l'on voit qui est fondé sur le roc et qui est fondé sur le sable. Amen. Et la tempête vient pour tout le monde. Remarquez que Jésus ne dit pas qu'une maison était en fabriquée ou en préfabriquée et l'autre était en ciment. Il n'a même pas dit que la maison était en bois et que l'autre était en béton. Non ! Ils ont tous les deux construit une bonne maison. Belle ! C'est comme si Jésus était en train de dire qu'ils sont tous les deux venus à l'église où on enseignait la parole de Dieu comme ici. Mais il dit la différence entre celui qui tient et celui qui tombe, c'est ce qu'il a fait de la parole de Dieu qu'il a reçue dans sa vie. Amen. Alléluia. Un jour, un mécanicien, j'espère qu'il n'y a pas de mécanicien ici ce soir, il a 43 ans, deux enfants, une femme merveilleuse et une petite entreprise de mécanique qui fonctionne très très bien, même trop bien. Et il est là, il est 8 heures du soir et il travaille encore, il travaille encore dans sa voiture, dans les voitures, etc. Et tout d'un coup, crise cardiaque, il est tombé par terre, il est mort. Il se réveille et il est au ciel. Il dit, mais où je suis ? Et l'ange Gabriel lui dit, mais tu es au ciel. Comment ça, je suis au ciel ? Mais oui, tu es mort, vous êtes mort et vous êtes au ciel. Comment ça, je suis au ciel ? Mais, c'est pas possible, je suis trop jeune pour aller au ciel. Il dit, écoutez, il doit y avoir une erreur, qui dit. Ah, mais écoutez, monsieur, le maître ne se trompe jamais. Ah, mais moi, je vous dis qu'il y a une erreur, qui dit. Je n'ai que 43 ans et je n'ai rien à faire ici. Renvoyez-moi sur la terre. Ah non, monsieur, le maître ne se trompe jamais. Monsieur, qui dit à l'ange, s'il vous plaît, je veux parler avec le maître parce qu'il se trompe. Écoutez, dit l'ange, je sais que le maître ne se trompe jamais, mais pour le bénéfice du doute, on va les voir dans les livres. Il va voir dans les livres de calcul, etc. et tout. Et au bout de 2 heures, il revient et dit, bonjour, monsieur. Eh bien, on a fait les calculs, en effet, vous avez 43 ans. Ah, je vous avais dit que je n'ai que 43 ans. Alors, renvoyez-moi sur la terre. Attendez, qui dit l'ange Gabriel. C'est vrai que vous n'avez que 43 ans, mais quand on compte toutes les heures supplémentaires que vous avez facturées à vos clients, vous devriez en avoir 82 maintenant. Mes amis, nous avons vu ces derniers jours combien ça coûte de désobéir au Seigneur. C'est vrai ? Et dans ce cas-là, ça a coûté, n'est-ce pas ? Hein ? Parce qu'au lieu de faire les choses correctement, il a fait les choses mal correctement. Alors bien sûr, c'est une blague, on le comprend bien. Ce n'est pas une histoire réelle. Hein ? C'est une blague. Et on ne veut pas tomber dans la culpabilité. Mais quand même, il faut quand même se rendre compte quand même que si on veut avoir la bénédiction de Dieu, on doit rentrer dans la vie de l'obéissance aussi. Amen. Et non seulement ça coûte de désobéir à Dieu, mais savez-vous, ça coûte aussi d'obéir à Dieu. On a quelquefois l'impression que quand on obéit Dieu, que la vie va être belle et douce. C'est la vie en rose. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie en rose. La vie de l'obéissance, des fois, elle coûte beaucoup plus que ce que cela pourrait nous coûter si on n'obéissait pas. Mais les dividendes qui reviennent après sont extraordinaires. Amen. Hein? Quelqu'un a dit ceci, c'était une femme de Dieu. Elle a dit, en parlant de tous les sacrifices qu'elle a fait pour Dieu, elle a dit, sa grâce est bien plus grande que tous les sacrifices. Amen, alléluia. Et je crois que c'est vraiment la vérité de Dieu cela. Et donc, ce soir, je voudrais voir un petit peu avec vous, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours ? Est-ce que c'est possible qu'il ne peut nous arriver que on fait des choses pour Dieu, mais ce n'est pas toujours facile. Dites avec moi, ce n'est pas toujours facile d'obéir. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas ? Un homme a dit ceci. Il a dit, la vie chrétienne se résume en un mot, obéissance. Et la plupart des chrétiens n'aiment pas ce mot. Parce que l'obéissance, ça nous coûte à nous. Des fois, ça coûte notre propre désir. D'ailleurs, Jésus, rappelez-vous, à Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dit, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté soit faite. Amen. Ne pensons jamais que la vie de l'obéissance est une vie facile, mais elle vaut la peine d'être vécue. Au comme un de mes amis dit, elle n'en vaut pas la peine, elle en vaut la joie. Parce qu'il y a une joie quand on vit pour Jésus-Christ. Amen. Oh oui, il y a la difficulté, il y a des moments difficiles, mais il y a une joie énorme. Amen. Et donc, c'est important pour nous de bien voir cela. Un jour, un homme qui avait son chien, et il était bûcheron. Et là, il va travailler, et son chien venait toujours à travailler avec lui. Et il va travailler, et puis on l'appelle pour aller un petit peu plus loin, un peu encore plus loin, et il dit à son chien, tu restes ici et tu gardes ma gamelle avec mon petit repas dedans. Personne ne peut le prendre, d'accord ? Et je ne sais pas pourquoi, mais ce chien, il comprenait toujours tout ce que son maître disait. Et le chien a bien compris qu'il devait rester devant cet arbre et s'assurer que personne ne vienne prendre sa gamelle. Mais ce qui se passe et ne veut pas se passer est arrivé, c'est que quand il est parti en plein milieu de la forêt, quand il est revenu, le chien était mort. Il y a eu un feu de forêt Et le chien est resté à côté de la gamelle de son maître jusqu'à en perdre sa propre vie. Et lorsque l'homme a repris son chien et il est allé l'enterrer, il a dit à certains de ses amis, « À chaque fois que je lui disais quelque chose, je devais faire très attention parce qu'il faisait tout ce que je lui demandais. » Ne serait pas merveilleux que Dieu dise ça de nous ? Aïe, 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 à chaque fois que je dis quelque chose à Donato, je dois faire attention parce qu'il fait tout ce que je demande. Il prend tout à la lettre. C'est comme le mari qui appelle sa femme, il dit, « Chérie, viens ! Je suis occupé. Chérie, j'ai toujours dit, quand je t'appelle, tu laisses tout tomber. » Et tout d'un coup, paf, tous les assiettes par terre. Tu m'as dit qu'il faut laisser tout tomber. Et donc, ce serait tellement merveilleux si un jour le Seigneur nous dit là-haut, ou si quelqu'un pouvait écrire sur notre tombe, tout ce que Dieu lui a demandé, il l'a fait. Alors là, moi, je peux directement vous dire, je suis déjà fichu. Je n'ai pas fait tout ce que Dieu m'a demandé, mais je tends vers cela. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de vouloir tendre vers cela ? On veut vraiment tendre vers tout ce que Dieu nous demande. Mais c'est vrai qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne fait pas toujours tout ce que Dieu nous demande, parce que quelquefois, on sait que le prix à payer est tellement dur, tellement fort. Je quitte la maison pratiquement 2 semaines par mois, et je vous assure, ce n'est pas facile. C'est dur d'être loin de ma famille, loin de mes enfants, loin de mon épouse. Alors certains vont dire, oui, mais maintenant tu n'as plus qu'un enfant à la maison. Les 2 autres sont partis de la maison. C'est vrai, mais celui qui est à la maison, il compte aussi. Hein? Amen. Et quand le dernier enfant n'est plus à la maison, je vous assure que l'autre qui reste à la maison, elle compte aussi, ma femme. Je crois qu'elle compte presque plus que les autres. Hello? Un jour, quelqu'un me dit, oh non, 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 il faut t'occuper de tes enfants. Laisse tomber ta femme, occupe-toi de tes enfants. Mais je lui dis, écoute, mon ami, mais quand ils ont 20 ans, ils partent. Moi, encore 40 ans plus tard, je dois encore être avec elle. Hein? Amen. Moi, bien sûr que je m'occupe de mon épouse, c'est ma meilleure amie. Alléluia. Et bien sûr, Dieu voulant, un jour, elle voyagera constamment avec moi. Amen. Hein? Parce que je pense que c'est là que Dieu nous mène. Mais la chose que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des choses qui coûtent. Et nous devons être prêts à en payer le prix. Amen. Je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit être prêt à obéir Dieu en toutes circonstances. Dans la parole de Dieu, nous avons pas mal d'histoires de personnes qui, face à certaines circonstances, avaient des choix à prendre. Et ils ont pris le bon choix. Et est-ce que nous voulons prendre aussi le bon choix ? Et d'obéir Dieu à toutes circonstances. Quelquefois, par convenance, on ne veut pas obéir. Alors quand je dis obéir Dieu, ce n'est pas que Dieu vous dit tous les matins, qui vient vers vous, « Thomas, ce matin, je veux que tu chantes 4 fois le fou sur le sable. » Non, non, Dieu, le Seigneur n'est pas comme ça, vous savez très bien. Tout d'abord, il nous demande d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais le Seigneur nous demande aussi d'obéir ceux qu'il a placés dans notre vie, en position d'autorité. Amen. On doit se rendre compte que dans notre église, dans l'église, il y a des pasteurs, et Dieu nous demande de suivre les pasteurs, d'obéir. La Bible dit « Obéissez à vos conducteurs ». Ah non, ce n'est pas écrit dans ma Bible, jette-la. Dans ma Bible, c'est écrit. Alléluia. Ah, mais nous, pasteurs, chez nous, il n'y a pas de pasteur. Nous, on n'a pas de leader. On est tous les mêmes. Vous savez, dans un groupe, quel qu'il soit, là où il n'y a pas de leader, il y aura toujours un manipulateur. Vous pouvez applaudir, elle est trop bonne, c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Oh je répète parce qu'elle était trop belle, je l'aime bien. Mais dans un groupe, quel qu'il soit, petit ou grand, s'il n'y a pas de leader, il y aura toujours, tôt ou tard, un manipulateur. Comment ? Et c'est souvent ceux qui disent « Nous, on ne veut pas de pasteur » qui sont les manipulateurs. Non, on doit comprendre. Écoutez, dans toutes les situations de la vie, il doit toujours avoir un leader. Imaginez-vous que nous sommes sur une barque. Pensez plus que c'est l'église, c'est la barque ici. Dites avec moi, la barque. Nous sommes combien ? 80 ce soir dans la barque. Et je suis le capitaine. Et tout d'un coup, il y a la tempête. Et pendant la tempête, je donne les ordres. Je dis, toi, fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et tout d'un coup, je me laisse prendre par une vague. Je ne suis plus là. Je ne vous donne pas 3 minutes pour que quelqu'un d'autre se lève pour être le nouveau leader. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans un leader. Amen. Et donc, quand on parle de servir Dieu et d'obéir Dieu, on parle non seulement d'obéir la parole de Dieu qui est écrite et celle qui est donnée à nous d'une manière directe par le Seigneur, mais c'est aussi d'obéir à nos conducteurs. Amen. Certains vont vers le pasteur et disent, « Pasteur, Dieu m'a dit que je dois aller en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez ?» Écoute, si tu prends Dieu comme autorité, je n'ai plus rien à penser. Hein? Hello ? Si tu me dis que Dieu te l'a demandé, je n'ai plus rien à penser. C'est trop facile de dire « Dieu m'a dit que ». Moi, j'avais quelqu'un dans mon église, il disait tout le temps « Dieu m'a dit que ». Oh, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Et puis, de temps en temps, je le reprenais. Je dis « Léon, arrête de dire « Dieu m'a dit que ». Oui, c'est vrai, tu sais, Dieu m'a dit que. Et puis, Dieu m'a dit que, et Dieu m'a dit que. J'ai dit « À la force de dire « Dieu m'a dit que », tu sais même plus ce que toi tu dis. Amen. Mais vous comprenez ça? C'est tellement facile. Non, c'est juste d'aller chez le pasteur et dire « Pasteur, je pense que ça, c'est la direction que je dois suivre. Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-moi votre avis. Prions ensemble. Soyons ensemble en commun accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Mais une fois que le pasteur dit que c'est bon. S'il dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit « Ah, vous êtes un bon pasteur. » Quand il dit que c'est pas bon, on dit « Ah, vous êtes un mauvais pasteur. Oh » Ça n'existe pas au Canada, tout ça. Non. Non, non. Seulement en Suisse, en Italie, en Sicile et tout. Au Canada, vous êtes tous dociles. Chez nous, en Suisse, probablement pas comme au Canada. D'abord, on fait et puis on demande. C'est comme chez les cow-boys dans Lucky Luke. D'abord, on exécute et puis on juge. Puis on voit s'il était innocent ou pas. Amen. Hein? Non, on doit vraiment faire attention à cela et savoir que ça coûte d'obéir. Et c'est important de savoir qu'on doit obéir. Amen. Amen. Peut-être que le Seigneur nous dit à travers notre Église qu'on doit aller dans telle direction, dans une telle ville, peut-être pour faire un... Par exemple, le pasteur dit, tiens, j'ai besoin de 5 volontaires pour aller dans une telle ville parce qu'on veut apporter quelques traités d'évangélisation. Et il y a 5 volontaires. Et puis le pasteur dit, on va aller là, là, là. Et l'autre volontaire dit, ah non, moi je vais aller là, je ne vais pas aller là. Vous savez, je suis des fois étonné de chrétiens qui se disent soldats de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Ils ne sont même pas capables de se lever le matin à 6h du matin. Nous sommes l'armée de Dieu. Ils ne sont même pas capables d'obéir le moindre ordre. Un jour, je demande à quelqu'un, gentiment, est-ce que tu peux prendre le haut-parleur qui est là et l'amener là derrière? Il a été tellement offensé que je lui ai posé la question qu'il est parti. Il m'envoie un message, il me dit ceci. Quand tu auras terminé d'appeler, de prendre les gens pour des petits chiens, je reviendrai. Et après, on me dit qu'on est des soldats. Aïe, 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 pasteur, vous avez été soldat, vous savez ce que c'est, hein? Amen, hein? Ça va comme ça. Alléluia. Écoutez, donc, dans la parole de Dieu, on voit plusieurs exemples de personnes qui ont été obéissants dans toutes les circonstances. La première chose, je crois, c'est être obéissant en plein milieu de la peur. En plein milieu, même quand on a peur, on reste obéissant. Amen. Quand on a peur d'y aller, on reste obéissant. Seigneur, quand... Le Seigneur m'a demandé de venir ouvrir une église en Suisse. Ben, je n'avais jamais ouvert d'église avant. Si, j'avais ouvert, mais pas tout seul. On était en équipe ici. Je vais tout seul avec ma femme et mes enfants. Et je quitte tout. Je quitte mon pays, je quitte mon pays d'accueil, je quitte une sécurité totale pour aller dans un endroit que je connais assez à peine, mais je sais que j'ai obéi le Seigneur. Amen. Et quand on obéit Dieu, mes amis, il y a des dividendes qui retombent. Amen. Pensez donc à Gédéon. La Bible dit que les Madianites sont devant lui. On ne sait pas combien de Madianites qu'ils étaient, mais probablement au moins 100 000 hommes, si pas plus. Et là, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, et il se retrouve à 300 contre eux. Croyez-vous pas qu'il a pas peur ? Dieu dit d'ailleurs, Dieu dit ceci. Il dit, dans Juges 7, 9 à 10, vous pouvez l'écrire, « L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Mais, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Et directement voix, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Et on sait qu'il avait peur, parce qu'il dit ceci, « Et il descendit avec Pura. » S'il descendit avec Pura, c'est parce qu'il avait peur. Dieu lui a dit, « Si tu as peur, va avec Pura. » Amen. Jusqu'aux avant-postes du camp. Amen. Et imaginez-vous, Dieu vous demande de faire quelque chose, mais vous avez peur. Est-ce qu'on va se laisser arrêter par la peur ? Est-ce qu'on va arrêter parce qu'on a peur de l'inconnu ? Ou on a peur parce qu'on n'a jamais fait quelque chose ? Ou on a peur de situations que l'on pourrait rencontrer ? Dieu nous demande d'obéir malgré nos peurs et d'aller de l'avant et dire « Je ne vais pas me laisser avoir par la peur. » Je pense au roi Josaphat lui-même. Trois armées sont devant lui. Les Moabites, les Syriens et les autres. Ils sont tous devant lui. Et les Madianites, de nouveau. Et la Bible dit que Josaphat, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Hey, même quand on a peur, on va commencer à obéir. La Bible dit « Cherchez Dieu ». Il est allé chercher l'Éternel. Regardez ça dans Hébreux 11, 7. Il est dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de justice qui s'obtient par la foi. Amen. Il avait une crainte, une peur. Alors, ce n'était pas spécialement la peur des choses, mais c'est certes une crainte de Dieu, une peur dans un sens, mais quand même, la Bible dit, averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Je ne sais pas quelles sont ces choses. Certains pensaient que c'était parce qu'il n'avait jamais vu la pluie. On ne sait pas s'il n'avait jamais vu la pluie, mais une chose est certaine, il y avait quelque chose devant lui et il avait peur. Mais malgré ça, il a obéi le Seigneur. Amen. Alors nous savons que la peur, c'est le contraire de la foi, mais il y a une peur qui est respectueuse. Je donne un exemple. C'est normal que nos enfants ont peur de traverser la rue. Heureusement! Imaginez-vous qu'ils traversent la rue tout le temps. Et puis, ils deviennent alors, c'est inconscient, parce que les voitures passent et risquent de se faire écraser. N'est-ce pas vrai? Donc, il y a une certaine peur naturelle qui est là pour un petit peu nous tenir, nous dire, hey, fais attention. Et là, il a cette appréhension de l'avenir. Il ne comprend pas ce qui va se passer. Des choses qu'on n'a jamais vues. Mais malgré ça, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Amen. Vous voyez combien c'est important d'aller là-dedans et de faire ces choses-là. Amen. Quelqu'un dit ceci, l'obéissance est un acte de foi, la désobéissance est un acte d'incrédulité. L'obéissance est un acte de foi, la désobéissance est un acte d'incrédulité. Amen. Alors, pour faire plaisir à quelqu'un qui me posait la question, mais est-ce que tu as encore d'autres chansons ? Mais bien sûr, j'ai un sac plein de chansons. Amen. Mais celle-ci, peut-être vous la connaissez. Il dit, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Vous la connaissez ? Non ? Ah, ben je vais vous l'apprendre alors. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alléluia! Oh, que c'est beau! Amen! Hein? Et donc, c'est important pour nous, ça. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la chose, la Bible dit, ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Ne marche pas par la peur. Avance. Lorsque Jésus a dit à Pierre d'avancer, il est avancé, il est venu sur l'eau. Il avait toutes les raisons d'avoir peur, mais il est avancé. Ce n'est qu'après, en ne fixant plus les yeux sur Jésus, que la peur est revenue. Amen. Alléluia. On obéit en plein milieu de la peur. On obéit aussi en face de l'opposition. Amen. Quelle que soit l'opposition, on fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Et il y a des gens comme ça, quel que soit ce que Dieu leur demande, ils vont le faire. Il y a un pasteur qu'on connaît bien qui dit ceci, si Dieu me l'a dit, je le fais, même si toute mon église est contre cela. Alléluia! Et ce n'est pas une église de 20 personnes, c'est une église de 8000 personnes. Mais il dit, si Dieu me le demande, je dois le faire. Même en face de l'opposition. Et nous devons vraiment nous rendre compte de cela. Même en face de l'opposition, nous devons obéir le Seigneur. C'est trop facile d'obéir quand tout va bien. Amen. Mais quand les choses ne vont pas bien, est-ce qu'on obéit encore Dieu? Est-ce qu'on obéit encore le Seigneur lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, mais on sait que des gens ne sont pas d'accord? Lorsque Joseph a son rêve, rappelez-vous, qui c'est qui va vouloir le tuer? Ses propres frères. Et très souvent, ce sont les gens très proches de nous que l'ennemi va utiliser pour nous faire du mal. Amen. Mais puis, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, et malgré ce qui se passe, il y a une grande bénédiction qui se passe dans sa vie, il commence à faire prospérer toute la maison de Potiphar, mais il y a cette femme. Oh, Seigneur, libère-moi des femmes. Enfin, pas toutes, pas de la mienne, s'il te plaît. Amen. Ne me libère pas de ma femme, elle est trop bien. Amen. Mais il y a cette femme qui vient. Et voilà que cette femme vient et elle veut le séduire. Et lui, il doit dire non. Et il se rend bien compte de ce qui va se passer. Parce que non seulement il s'enfuit, mais en s'enfuyant, il oublie la moitié de ses vêtements. Et il part tout nu. Et il s'enfuit. Oh, il est tout nu. Et après, qu'est-ce qu'il va dire aux autres? Elle a voulu me séduire. Hey, c'est elle ou c'est toi qui es tout nu? Ah. Encore, aurait-il dit, si elle était tout nue, c'est une chose, mais c'était toi qu'on l'a trouvé tout nu, pas elle. Et là, directement, il a compris quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui ne cloche pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je fais tout pour obéir Dieu, je ne tombe pas dans le compromis, c'est encore moi qui emporte les conséquences. Et Joseph a refusé le compromis. Mais savez-vous, quand on refuse le compromis en marchant de l'obéissance, ça coûte aussi. Ça a coûté des années de Joseph en prison. Allô? Il aurait pu dire, bah, de toute façon, personne ne le saura. Pourquoi pas aller au lit avec elle? De toute façon, personne ne le saura. Allô? Même si personne ne le sait, Dieu le sait. Je crois que des fois, on a oublié que Dieu est vivant et qu'il est partout. Hello, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Dieu est partout. On a l'impression que Dieu voit tout ce qui va mal dans notre vie, notre souffrance. Seigneur, regarde ma souffrance. Et quand on pêche, Seigneur, tu vois rien. Ah non, tu vois rien. Hein? Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Même Jésus, dans sa chair, dit à Nathanaël que quand il était sous l'arbre, je t'ai vu. Amen. Hello. Quand les disciples sont en plein milieu, en haute mer, dans la mer de Galilée, de loin, Jésus prie pour eux et il les voit en problème. Et Dieu nous voit toujours. Amen. Dieu n'est pas aveugle. On a l'impression que des fois, il est aveugle quand ça nous arrange. Non, Dieu n'est pas aveugle, que ça nous arrange ou pas. Et là, Joseph a refusé le compromis, mais il savait très bien qu'il devait vivre dans l'obéissance. Amen. Et nous devons apprendre à vivre dans l'obéissance. Ça coûte, mais les dividendes seront extraordinaires. Amen. Alléluia. Regardez Moïse. Dieu lui dit, tu vas parler à Pharaon. Il dit, mais Dieu, je ne sais pas parler. Écoutez, c'était un menteur. Mais bien sûr qu'il savait parler. Cet homme a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était un prince d'Égypte. C'était un grand homme. Mais bien sûr qu'il savait parler. Mais il avait peur. Il avait peur. Dites avec moi, il avait peur. Et là, Dieu a dû vraiment, vraiment user de ses grandes capacités de persuasion. Il a probablement dû faire quelques cours de négociation. Apprendre à négocier. Allô ? Moïse avait peur. Mais gloire à Dieu, il a quand même été. Il a été au-delà de ses peurs. Et il est allé. Amen. Amen. Joyce Meyer a dit ceci. L'obéissance à Dieu est le sentier de la vie que vous désirez vraiment vivre. Quelle est la vie que je veux vivre ? Si tu obéis Dieu, tu arriveras à cette vie-là. Alléluia. Je veux une vie belle, prospère, une vie d'abondance. Eh bien, j'obéis le Seigneur et j'y vais. Amen. Même si cela coûte. Il y a un homme qui, en 1900, dans les années 60, non, 50, pardon, un homme dans les années 50 est parti avec une équipe. Ils sont allés en Équateur. Et dans l'Équateur, ils sont allés pour atteindre les Indiens, des Indiens là-bas, les Indiens Huaorani. Et ils voulaient aller faire cette tribu qui n'avait jamais vu de blanc. Et ils sont allés. Il avait 29 ans. Et quand il est allé là, ensemble avec 4 autres hommes, ils ont perdu leur vie. Ses propres Indiens, à qui il voulait apporter l'évangile, les ont tués. Il avait avec lui sa femme et sa fille. Et sa femme, Elisabeth, lui s'appelait Jim Elliot, sa femme Elisabeth est restée encore quelques années avec ces Indiens-là. Et il en a amené beaucoup au Seigneur. Ça lui a coûté son mari. Ça lui a coûté tellement de choses. Elle est retournée après dans son pays. Puis il est revenu de nouveau vers elle. Elle vit encore. Alléluia. Elle est née en 1926, elle vit encore. Amen. Mais elle a servi le Seigneur. Elle a dit, quel que ce soit qui me coûte, si Dieu avait demandé à moi et à mon mari d'aller là, ok, mon mari ne peut plus parce qu'il est mort, mais moi je continue. Quelle que soit l'opposition, on continue, on va de l'avant, on obéit le Seigneur. Amen. Alléluia. Rappelez-vous Néhémie. Le Seigneur lui a mis à cœur de reconstruire les murs de Jérusalem, mais ce n'était pas sans problème. Les gens croient que tout va toujours comme de l'eau de roche, que tout va toujours bien. C'est comme quelqu'un qui un jour voit quelqu'un comme Thomas jouer au piano et lui dit, oh, Thomas, je donnerai ma vie pour jouer comme toi. Et Thomas dit, mais il ne faut pas donner toute ta vie, 15 minutes par jour, ça suffit. Et puis, le gars lui dit, 15 minutes par jour, mais tu crois que j'ai le temps de faire tout ça? D'abord, tu dis que tu donnes ta vie, maintenant 15 minutes, c'est trop. Écoutez, si on veut avoir quelque chose, il faut payer le prix. Alléluia. Si on veut aller de l'avant, on paye le prix. Certains veulent prospérer, mais ne veulent pas étudier pour prospérer. Ils ne veulent pas s'asseoir à côté de quelqu'un qui soit comme un mentor. Amen. Oh, des fois, on va aller chercher les mauvais mentors. Et on oublie que dans l'église locale, il y a de bons mentors. Amen. Notamment vos pasteurs, qui pourront vous montrer les principes de la parole de Dieu pour prospérer. Hello ? Peut-être aussi qu'il faut avoir, si Dieu te dit, je veux que tu fasses telle ou telle chose, tu dis, ok, quel que soit le prix, je vais faire des études à l'université ou bien dans des cours du soir pour justement faire ce que Dieu me demande. Hello ? Si Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il faudra obéir. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si Dieu veut que vous devenez infirmier, ça veut dire aller à l'école d'infirmerie. Si Dieu veut que vous deveniez des médecins, vous devez aller à l'école pour être médecin. Oh, mais c'est 7 ans d'études minimum. Oh, mais si Dieu t'a demandé, tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Ah, oh, mais quand même, hein. Mais si Dieu te le demande, fais-le. Ça coûte. Mais il faut le faire. Oui, mais moi, j'aime beaucoup aller à l'université. Mais ce que j'aime pas, c'est les examens. Oui, ça, c'est l'opposition. Il y a de l'opposition. C'est dur, les examens. Mais il faut se battre parce que Dieu nous a demandé de le faire. Amen. Amen. Thomas Kempis, cet homme qui a écrit ce livre très populaire, L'imitation de Jésus-Christ, a dit ceci. L'obéissance instantanée est la seule obéissance qui soit. Je répète. L'obéissance instantanée est la seule obéissance qui soit. L'obéissance différée, c'est de la désobéissance. Tout ce qui tente de s'éloigner de l'obéissance s'éloigne de la grâce. Amen. Alors c'est marrant parce que tellement de gens parlent de la grâce ceci, la grâce cela, la grâce. On a l'impression que la grâce, c'est du chocolat. Dieu verse le chocolat qui veut. La grâce a un prix. Aujourd'hui, les gens parlent de la grâce à bon marché. La grâce qui ne coûte rien. Oh, c'est vrai que la grâce, elle est donnée gratuitement. Mais pas n'importe quelle grâce est donnée gratuitement. La seule grâce qui est gratuite, c'est la grâce du salut. Et encore, elle a coûté le précieux sang de Jésus. Et encore, elle n'est pas si gratuite que ça parce qu'elle nécessite deux choses, la foi et la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance ? La repentance, c'est ceci. Jusqu'à aujourd'hui, je vivais pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Et ça coûte ça. Ce n'est pas la grâce à bon marché. Certains pensent que la grâce à bon marché, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. De toute façon, ça ne me coûte rien. Dieu, de toute façon, il me pardonne tout le temps. C'est vrai que Dieu nous pardonne. Mais il ne pardonne pas simplement ce qu'on fait. Il veut connaître l'état de notre cœur. Parce que la repentance, c'est une repentance du cœur. Hello ? Amen ! C'est dans mon cœur que je me repens. C'est dans mon cœur que je dis, Seigneur, excuse-moi, je te demande pardon. C'est dans mon cœur que je dis, Seigneur, j'ai fait une erreur, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Quelqu'un, un jour, me dit, un copain à moi, me dit, je suis Donato. Moi, je suis de la grâce. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Dieu aussi, bah, entre guillemets. Mais il dit, moi, je suis dans la grâce. Et je sais que parce que je suis dans la grâce, que je suis la justice de Dieu, je ne dois plus confesser mes péchés au Seigneur. Bizarre, parce que 1 Jean 1,9 me dit, si je pèche, je confesse mes péchés. Ah oui, mais attends, c'était pas pour nous, ça c'est pour les autres. Ah bon ? Attends, mais si ma femme, je la vois, et je dis, chouchou, et je commence à parler avec elle, et puis en parlant avec elle, je m'énerve, et je lui dis quelque chose de méchant, et elle se blesse, elle se heurte. Je lui dis, ouais, t'es toujours la même. Je ne dis pas ça. Hein. T'es toujours la même, tu ne vaux rien. Je ne dis pas ça. Hein. N'allez pas dire que Pasteur Donato dit ça à sa femme. Hein. Tu ne vaux rien, t'es toujours comme ça. T'es petit patapata. Et puis, oh, elle est blessée dans son être intérieur. Allez, je ne veux plus te voir. Hop, elle est blessée. Je ne lui dis pas ça, croyez-moi. Et puis, la journée passe, je ne lui dis rien. Et puis le soir arrive, je dis, chou, qu'est-ce que t'aimerais passer la nuit au lit avec moi? Mais vous savez ce que ma femme ferait? Ta-ta-ta-ta-ta-ta! D'abord, tu demandes pardon et après, on verra. Mais ce sont les éléments. Comment on appelle ça ? Ce sont les formules élémentaires des relations. Amen. Si moi, je blesse quelqu'un, je lui demande pardon. Je vais lui dire, tu sais quoi ? Excuse-moi, vraiment, je te demande pardon. J'ai fait une erreur contre toi. Je te demande pardon. Amen. Quel est le problème de dire à Dieu, Dieu, je te demande pardon ? Alors ? Est-ce qu'il y a ainsi un gros problème de dire, Dieu, je te demande pardon ? Au contraire, ça restaure la communion. Amen. Je sais que si je fais du tort à mon épouse, elle sera toujours mon épouse. Mon fils sera toujours mon fils. Si, même si je le frappe tac, injustement, il sera toujours mon fils. Mais c'est quand même plus agréable d'aller vers lui et dire, tu sais quoi, j'ai fait vraiment une boulette, excuse-moi, je te demande pardon. Et au moins, on restaure notre communion. Amen. Je voudrais quand même pas que mon fils vienne vers moi et dise, papa, tout ce que tu as fait dans ma vie contre moi, eh bien, je vais te dire une chose. Je suis ton fils, on ne peut rien échanger. Mais à partir de maintenant, on n'est plus des amis. Je ne te verrai plus jamais. Oh ! Ce serait horrible. Hello ? Ce serait horrible, n'est-ce pas ? Et il aura presque raison. Pourquoi? Parce que je l'aurais tellement maltraité sans jamais lui demander pardon. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais pas maltraiter mon Dieu. Et si jamais je le fais, même par inadvertance, et que le Saint-Esprit me révèle que j'ai fait un tort, la première chose que je ferai, c'est d'aller vers papa et de lui dire « Pardon, papa, je reconnais que c'était une erreur. Je reconnais que je n'aurais pas dû dire cela. Je reconnais que je n'aurais pas dû faire cela. » Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et en fin de compte, il y a un troisième niveau d'obéissance. C'est obéir Dieu quand les choses n'ont aucun sens. Obéir Dieu quand cela n'a aucun sens. Amen. Regardez Noé. Noé, Dieu dit, construis-moi une arche. Une quoi ? Une arche. Une quoi ? Une arche. Mais c'est quoi une arche ? Je te montrerai le chemin. Je te montrerai le plan. Je te dirai comment il faut le faire. Ok, et puis il se rend compte, c'est quelque chose qui est fait pour flotter. Flotter sur quoi ? C'est pas qu'il pleut tous les jours chez nous. C'est tellement plat que même s'il pleut tous les jours, ça ne montera jamais. La Bible dit qu'il a eu peur même, une peur respectueuse, des choses qu'il n'avait jamais vues. Mais il a obéi. Est-ce que vous avez vu le film Evan Tout-Puissant 2 ? C'est Evan Tout-Puissant. Pas, l'autre, c'était Bruce Tout-Puissant. Evan Tout-Puissant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, mais j'ai vu le film et j'ai pleuré. Il faut dire que quand je regarde un film, je pleure vite, moi. Vous croyez que je suis un dur ? Non, je suis un tout, moi. Je suis un tout doux. Quand je vois ma femme, je dis, « Bonjour, ma chérie, comment ça va ?» Non. Et Evan, le Tout-Puissant, c'est un homme, un simple homme, c'est un congressman aux États-Unis. Et tout d'un coup, pour raconter toute l'histoire très brièvement, il reçoit un mandat de Dieu de construire une arche. Et il ne veut pas. Mais Dieu lui dit, tu construiras l'arche. Et il ne veut pas. Et il ne veut pas. Et tout d'un coup, lui, on appelle ça un cleaning fanatique, un fanatique de la propreté, il se rase jusque dans les bouts du nez tout le temps. S'il pouvait mettre un fil de là et le faire sortir de l'autre côté, il l'aurait fait comme ça. Il se rase les partout, partout, tout, net comme tout. Et tout d'un coup, il se rase et la barbe apparaît. Puis il se rase de nouveau, poum, la barbe apparaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et tout d'un coup, il se retrouve avec une barbe. Et puis tout d'un coup, la barbe commence grande, grande et blanche. Et puis tout d'un coup, Dieu lui met devant lui, puisqu'il ne voulait quand même pas le faire, il lui met un vêtement un petit peu comme les hommes préhistoriques, vous savez, un vêtement tout, un petit peu comme Noé l'aurait eu, tu vois, une sorte de toge, etc. Et tout. Et il va au Congrès avec la toge. Et puis il commence finalement, parce que tout le bois arrive de manière surnaturelle, il commence à construire son arche. Et tout le monde croit qu'il est fou. Jusqu'au moment où sa femme dit, ça doit être une crise de middle age. Tu dois avoir 45 ans et tu dois avoir une crise de middle age, de moyen âge, là, comment on appelle ça, de l'âge middle, hein, je ne sais pas comment on dit en français. Hein, et elle dit, ou bien tu arrêtes, ou bien je m'en vais. Et là, je pleure. Parce qu'il dit, je ne peux pas arrêter. Dieu m'a demandé de le faire. Mais ça n'a pas de sens. Il ne pleuvra jamais ici. Ça n'a pas de sens. Dieu m'a dit, je ne peux pas faire autrement. Et elle part. Et elle part, et puis elle rencontre Dieu pendant que lui continue. Et c'est Morgan Freeman qui joue Dieu. C'est le meilleur des dieux que j'ai jamais vu. Il joue superbement bien. Surtout quand il se met à rire. Mais il rit. Ça me fait plaisir. Et puis finalement, elle commence à comprendre quelque chose et elle revient. Et finalement, elle va aider son mari avec toute sa famille. Et à un certain moment, il commence à pleuvoir. Il dit, ça y est, la journée même. Mais il pleut, en quelques minutes, il ne pleut plus. Et tous les journalistes qui sont là, du monde entier, il est où ton déluge ? Et tout d'un coup, un peu quelques kilomètres de là, ils entendent un grand boum et un grand barrage qui avait été mal construit par d'autres politiciens qui sont arrangés pour prendre un petit peu d'argent et donc construire avec des matériels moins forts, arrivent et commencent à envahir toute la vallée. Ils soulèvent l'arche. Et tous les animaux qui étaient dans la vallée ont été sauvés. Belle petite histoire, un petit peu histoire moderne de l'arche. Mais ce qui était intéressant, ce qui m'a fait beaucoup à penser à moi, imaginez-vous, ça n'a duré chez lui que quelques mois. Pour Noé, ça a duré 120 ans. 120 ans. Imaginez-vous sa femme. Il dit, mais t'es fou, Noé. T'es fou. Mais écoute, le temps que tu mets à construire ça, tu pourrais travailler, rapporter plus d'argent à la maison. Noé, regarde ce que les gens disent de toi. Ils disent que t'es fou. Et quelquefois, Dieu nous demande de faire des choses qui nous semblent tellement insensées. Mais on doit obéir le Seigneur. À Abraham, il va lui dire, offre ton fils Isaac. Waouh. À Isaac, il va lui dire, ne quitte pas le pays, mais sème dans ce pays où se trouve la famine. Hello? C'est pas insensé, ça? Sème dans le pays où il y a de la famine. Investis dans le pays où il y a de la famine. Investis dans un endroit où il n'y a rien qui fonctionne. C'est comme si on vous disait, mets ta piscine dans le désert. Ouais, qui c'est qui va porter l'eau après, chaque fois? Allô? Il y a des choses insensées. Et quelquefois, Dieu nous demande de faire des choses insensées. Mais on doit aller de l'avant. Amen. Et on doit faire ce que Dieu nous demande. Quelqu'un dit ceci, c'est bien plus facile de faire ce que Dieu nous demande de faire, quelle qu'en soit la difficulté, que d'affronter la responsabilité de ne pas le faire. Alléluia, je répète parce qu'elle est trop bien. C'est bien plus facile de faire ce que Dieu nous demande de faire, quelle qu'en soit la difficulté, que de prendre la d'affronter la responsabilité de ne pas le faire. Oh, mamma mia. C'est bien plus facile de faire ce que Dieu nous demande de faire, quelle qu'en soit la difficulté, que d'affronter la responsabilité de ne pas le faire. Amen. Dieu nous demande de faire des choses qui sont insensées. Oral Roberts a dit ceci. À chaque fois que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je ne savais pas comment le faire et je n'avais pas l'argent pour le faire. Si ça, c'est pas insensé. Oral Roberts, je veux que tu construises une université basée sur la parole et l'esprit. Merci. Comment je le fais? Avec quel argent? Mais même si ça paraît insensé, il a toujours fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Et je crois que pour nous, dans notre vie tous les jours, on doit vraiment commencer à voir ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce qu'on va aller de l'avant? La vie de l'obéissance apporte beaucoup de bénédictions. La désobéissance apporte la destruction, apporte la tragédie. La vie de la désobéissance coûte beaucoup. La vie de l'obéissance peut aussi coûter beaucoup. Mais les bénédictions qui en reviennent sont extraordinaires. Amen. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Amen. J'aimerais bien prier ce soir pour ceux et celles d'entre vous qui êtes ici et qui vous demandez, qui vous dites, voilà, en écoutant ce message, je me rends compte que quelquefois, je suis convaincu que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Mais j'étais soit bloqué par la peur, soit bloqué par l'opposition, soit bloqué par ce que je pensais que c'était insensé. Attention, quand c'est insensé et tout le reste, allez vers vos pasteurs, demandez leur conseil, bien sûr. Amen. Ce n'est pas que par quelqu'un meurt qu'il faut chaque fois aller essayer de le ressusciter. Un jour, une longue histoire, mais cette femme et ce mari n'étaient pas soumis dans l'église locale. Ils étaient soumis à un prophète qui était à 5000 km de là. Et enfin, c'est toute une histoire longue, mais la chose terrible, c'est ceci, c'est qu'un enfant naît dans la maison, leur enfant, et au bout de 2-3 jours, l'enfant est mort. Savez-vous, ils ne sont même pas allés parler avec le pasteur. Pour dire, pasteur, viens, on a besoin de toi. Ils ont téléphoné à leur prophète, qui finalement, savez, ça devient plus un gourou qu'un prophète à ce moment-là. Et le prophète leur a dit, votre enfant vivra. Et savez-vous, quand je parle avec ces gens, ça fait 2 ans que l'enfant est dans le frigo à la morgue. Et ils attendent qu'il ressuscite des morts. Quand on parle d'insensé ou de sensé, c'est des choses qui sont quand même encore en accord avec la parole de Dieu. Amen. Et si vous n'êtes pas certain que c'est en accord à la parole de Dieu, demandez conseil à vos pasteurs. La Bible dit que c'est dans la multitude des conseillers qu'il y a le salut. Amen. Mais vous rendez-vous compte, 2 ans, et ce n'est pas le fait qu'ils ont payé, parce qu'il faut payer pour que l'enfant soit mort. Mais qu'est-ce que les gens vont penser d'eux? Ah, ça, c'est les chrétiens. Ça, c'est les chrétiens. Stupidum, stupita, stupitorum. Amen. Non, il y a des choses qui ne sont pas insensées. C'est fou. Fou, c'est fou. Amen. Mais des fois, Dieu nous demande de faire des choses qu'on ne comprend pas à ce moment-là. C'est insensé parce qu'on ne comprend pas maintenant. Mais plus tard, on comprendra. Amen. Hein? Alléluia. Donc, si cela est pour vous, si quelqu'un, ou si vous voulez venir devant parce que vous dites en effet, moi je veux vivre une vie pour Dieu, je me consacre au Seigneur pour vivre une vie d'obéissance malgré la peur, malgré l'opposition, malgré peut-être des fois que je ne comprends pas le sens de ce que Dieu me demande. Avancez devant et on va prier avec vous. On va croire que Dieu va vous toucher, que Dieu va vous donner les forces et les forces d'aller plus loin. Amen. Les forces de dire je vais faire, je vais être comme ce petit chien. Quoi que ce soit que Dieu me demande, je le ferai toujours. Et savez-vous quoi? Dieu n'est pas tellement différent de nous parce que la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais si moi je demande à Kumuel faire quelque chose et il le fait, la prochaine fois je lui demanderai encore une chose. Mais si je demande quelque chose et il ne le fait pas, je risque de le demander la prochaine fois et il ne le fait pas. Croyez-moi, il n'y aura pas une troisième ou une quatrième fois. Hein? Hello? Il y a des tas de gens qui vivent dans la misère parce qu'ils ont dit non à Dieu. Ils ont fermé les portes de leur cœur à ce que Dieu leur demande. Peut-être que quelqu'un est ici ce soir et se dit, waouh, combien de fois je n'ai pas dit non à Dieu. C'est possible. Alors, l'appel est assez large pour que vous ne pensiez pas que les gens disent, ah, il a dit non à Dieu. Non, mais venez quand même devant si vous voulez maintenant dire oui à Dieu. C'est un moment important. Comme le disait le pasteur, je crois que c'est vraiment un moment appointé, un moment, un rendez-vous divin de la part du Seigneur. Alléluia. Moi, je crois vraiment que le Seigneur veut nous restaurer dans une nouvelle direction avec lui, pour nous apporter dans une nouvelle relation, une nouvelle communion, la communion de l'obéissance, la communion d'un père avec un fils, avec une fille, et quelque chose d'extraordinaire. Amen. Alors si c'est le cas, si vous voulez avancer, peut-être c'est un renouvellement, peut-être c'est demander des forces pour pouvoir aller au-delà de la peur, au-delà de l'opposition, au-delà de l'idée que c'est insensé, n'ayez pas peur d'avancer. Le Seigneur est là, il va vous bénir. Amen. Amen. Hein? On ne va pas prendre trop de temps, mais je vais imposer les mains sur chaque personne qui vient devant. Hein? Et nous allons croire le meilleur pour chacun d'entre vous. Pasteurs sont avec nous, c'est un travail d'équipe. Amen. Et quelle joie de les avoir ici avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On va prier une prière ensemble d'abord et ensuite nous irons et nous imposerons les mains sur chacun d'entre vous. Seigneur, dites avec moi, après moi, Père éternel, je m'approche de toi pour vivre dans l'obéissance. Je consacre ma vie pour te servir et t'obéir, à ne pas me laisser arrêter par la peur, par l'opposition ou par ce qui semble insensé, mais à obéir coûte que coûte. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux te suivre dans toutes tes voies et te reconnaître dans toutes mes voies afin de ne pas m'appuyer sur mes propres intelligences, mais de te reconnaître et de m'éloigner du mal, de m'éloigner de la désobéissance et de vivre une vie d'obéissance pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.